François Collard du Tilleul, bonjour.
Bonjour.
Je suis très heureuse de vous accueillir à l'antenne de l'Union Rationaliste pour parler d'un thème essentiel et dont on parle peu, le droit à l'alimentation ou pour une démocratie alimentaire. Vous êtes professeur émérite de droit. Vous avez dirigé le programme international LASCO. Vous êtes spécialiste des questions agricoles et alimentaires et vous êtes un spécialiste de la sécurité alimentaire dans le monde. Si je vous ai invité aujourd'hui à l'antenne de l'Union Rationaliste, c'est pour que vous nous parliez à la fois de ce programme que vous avez dirigé de 2009 à 2014, le programme LASCO, de la démocratie alimentaire et de la lutte contre la faim. Autant de questions décisives. Donc, première question, pouvez-vous expliquer aux auditeurs de France Culture qu'est-ce que le programme LASCO que vous avez dirigé, pourquoi s'appelait-il ainsi et quelle était sa tâche?
Alors, d'abord, merci de m'avoir invité et de m'avoir invité dans un cadre précisément où il s'agit d'aborder une question fondamentale en mettant la raison au cœur de ce problème. Et c'est le point de départ. Le point de départ, c'est une interrogation, savoir pourquoi dans le monde il y a 820 millions de personnes qui meurent de faim, pourquoi il y a 500 millions d'obèses, pourquoi il y a 1,8 milliard de personnes qui ne mangent pas suffisamment et pourquoi il y a finalement un nombre aussi important de personnes qui souffrent de leur alimentation. Et je ne parle pas du diabète, des accidents vasculaires et de toutes les maladies qui peuvent être liées à l'alimentation. Et pourquoi? Si nous sommes dans un système libéral de libre-échange qu'il faut protéger, qui est le seul unique au monde possible, sans quoi on tombe dans le méchant protectionnisme, dans la maladie protectionniste.
Ou dans le marxisme.
Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Est-ce que le système est si bon que cela? Et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de le corriger un peu pour que les résultats soient moins négatifs qu'ils ne le sont? Et pourquoi LASCO? Bien parce que, tout simplement, pour peindre les grottes de LASCO, il ne faut pas avoir eu à chercher sa nourriture 3 fois par jour. Et donc ça suppose, un, que la communauté s'organise pour que certains aillent chercher de la nourriture pendant que les autres peignent les grottes de LASCO, et deux, que cette communauté considère qu'il était absolument vital pour elle de peindre sur les murs de la grotte de LASCO. Et donc en laissant quelques milliards de personnes malades de leur alimentation, est-ce qu'on ne se prive pas de beaucoup de peintres de grottes de LASCO?
Très belle explication de ce titre choisi pour ce programme. Est-ce que vous pourriez expliquer en quoi consiste ce programme?
Alors c'est un programme qui consiste à rechercher donc les causes des dysfonctionnements agricoles et alimentaires dans le monde. Et comme je suis juriste, je regarde ces causes avec le filtre du droit. Donc, c'est du point de vue de la méthode quelque chose d'assez nouveau, parce que comme juriste, on est d'habitude, notre travail consiste à regarder la loi, à travailler sur la loi, sur la jurisprudence, sur le droit positif. Alors que mon travail, là, a consisté à regarder le monde en ayant le droit en tête, avec le prisme du droit. Mmh. Et donc, j'ai dû le faire très vite avec d'autres disciplines, des sciences sociales et des sciences dures, d'ailleurs, parce qu'on ne pouvait pas comprendre ce problème simplement avec le droit.
Donc, des démographes, des économistes.
Géographes, sociologues, biologistes, agronomes. Donc, des personnes de qualité très différente, de disciplines très différentes, pour essayer d'aborder l'ensemble du problème. Et voir si, en droit, il n'y avait pas des bugs. Mmh. Des bugs qu'on pourrait corriger, et en les corrigeant, améliorer le résultat qui ne me paraissait pas très satisfaisant.
Donc, vous avez associé à ce programme quelques centaines de chercheurs?
Voilà, dans les périodes les plus actives, il y a eu jusqu'à à peu près 200 chercheurs. Mmh. Alors la majorité étaient des juristes, puisqu'il s'agissait vraiment de voir comment on pouvait mettre le droit au service de la sécurité alimentaire et au service de l'affirmation d'un droit à l'alimentation. Un droit à l'alimentation qui est posé en droit et qui n'est pas appliqué. Ça pose quelques questions aux juristes.
Bien sûr.
Une sécurité alimentaire qui est donnée comme objectif international et qui n'est pas assurée à hauteur de plusieurs milliards de personnes dans le monde. Ça pose question aux juristes, puisque la sécurité alimentaire, c'est aussi un objectif juridique.
Alors, ça, c'est l'objet de ma deuxième question. Il existe dans le droit des concepts qui comme ça, apparaissent comme autant d'idéaux. Mais est-ce qu'en toute rigueur, on peut en parler? Et donc, ma question, c'est, peut-on parler d'un droit à l'alimentation?
Oui, un droit à l'alimentation, cela existe. Un droit à l'eau aussi existe. Ce sont des droits qui existent en droit positif, ce sont des droits qui sont reconnus, ce sont des droits qui ne sont pas efficaces, qui n'ont pas l'efficacité ou l'effectivité qu'on souhaiterait, mais ce sont des droits au même titre que le droit des brevets est un droit, que le code de la route est un droit. Simplement, il se trouve que les droits fondamentaux, les droits de l'homme, et en particulier le droit à l'alimentation, on ne le respecte pas avec autant de volonté, d'énergie, de force que le droit des brevets, que le droit de la terre ou que le droit de la concurrence.
Parce que les intérêts ne sont pas les mêmes ?
En effet, oui, parce que les intérêts ne sont pas les mêmes, parce que ceux qui manient le droit sont ceux qui ont les moyens de le manier, les moyens intellectuels et les moyens financiers. Le droit, ça coûte de l'argent. Et ceux qui n'ont rien, pas même à manger, ils n'ont pas le droit à leur disposition. Et non pas que le droit soit méchant ou dirigé contre eux, mais ils ne l'ont pas à disposition. Comment on peut mettre le droit au service de la sécurité alimentaire? Voilà, c'était mon but, en quelque sorte.
Alors, est-ce qu'il y a des grands textes, je pense par exemple à la charte de la Havane, dont on peut se prévaloir?
Oui, il y a d'abord la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui fait référence aux droits, aux moyens de subsistance, dont l'alimentation, l'eau. Il y a le protocole international des droits économiques, sociaux et culturels, qui est contraignante depuis mai 2013, et qui est contraignante depuis mai 2013, mais qui n'est quand même pas très, très efficace toujours. Mais là, ce sont. Et il y a la charte de la Havane, c'est un peu différent. La charte de la Havane, c'est une belle histoire et en même temps une histoire triste.
Est-ce que vous pouvez la raconter aux auditeurs?
Très, très brièvement, ça vient de Roosevelt, de la guerre. En 1941-42, Roosevelt se dit « il n'y aura jamais la paix dans le monde si tout le monde n'a pas à manger ». Et il n'y aura pas la paix dans le monde si on traite les gens comme des esclaves, et il n'y aura pas la paix dans le monde si on laisse la finance prendre la main sur tout. Et il organise trois conférences internationales, une qu'on n'a jamais oubliée, qui est la conférence de Bretton Woods sur la monnaie, conférence dans laquelle on dit « la monnaie n'est pas une marchandise », une sur le travail à Philadelphie, en 1943, où on dit « le travail n'est pas une marchandise comme les autres », et une sur l'agriculture et l'alimentation, en 1943 aussi, à Hot Springs, dans laquelle on dit « les produits agricoles et les produits alimentaires ne sont pas des marchandises comme les autres ». Et Roosevelt en tire la conséquence qu'il faut une convention spéciale qui encadre le commerce international des produits agricoles d'une manière différente, d'une manière orientée vers des objectifs qui ne sont pas simplement le profit. Et donc, il lance la négociation d'une grande charte internationale qui est devenue ensuite le GATT, puis l'Organisation mondiale du commerce. Je dirais qui a été détournée ensuite en GATT et en Organisation mondiale du commerce. Et dans cette charte de la Havane, on organise le commerce international, libre circulation des marchandises, libre circulation des capitaux, mais avec un régime spécial pour les produits agricoles. Pour les produits qui sont issus des ressources naturelles, agriculture, pêche, forêt et sous-sol. Un régime spécial pour lequel la charte dit le commerce international doit être mis au service de quatre objectifs. Le développement économique, le plein emploi, la sécurité alimentaire et la préservation des ressources naturelles. En mars 1948, charte de la Havane, on est loin de ça. Et il se trouve que Roosevelt étant mort, remplacé par Truman, démocrate, qui avait un congrès républicain en face de lui, un peu comme Obama aujourd'hui. Et le congrès américain a refusé de ratifier la charte de la Havane. Et comme les États-Unis ne ratifiaient pas, tous les autres pays qui avaient pourtant signé n'ont pas non plus ratifié cette charte.
On est dans une brûlante actualité.
Dans une brûlante actualité. Oui. Et les pays les plus riches ont pris un chapitre de la charte de la Havane, le chapitre qui organise le commerce libéral, le libéralisme du commerce. Mais en oubliant, c'était le chapitre 4, en oubliant le chapitre 6 sur les produits de l'agriculture. Et puis ensuite, c'est devenu le GATT, c'est devenu l'Organisation mondiale du commerce. Et l'Organisation mondiale du commerce est une organisation indépendante de l'ONU. Les droits de l'homme sont à l'ONU. Le droit du commerce est à l'OMC. Et l'OMC n'a pas à respecter les règles de l'ONU.
Ah ouais,
et donc, le droit à l'alimentation est à l'ONU. Mais le droit du commerce international, il est à l'OMC.
Cette lecture est très éclairante pour comprendre ce qui arrive à l'alimentation aujourd'hui.
De telle sorte que le commerce n'a pas à se préoccuper de l'objectif de sécurité alimentaire, des droits de l'alimentation.
Dans le programme LASCO, vous avez combattu pas mal d'idées reçues sur l'alimentation. Pourriez-vous nous en indiquer quelques-unes ?
Sans doute deux idées, pour le moins deux idées. L'une qui est... que je voudrais défendre davantage dans l'avenir, qui est que les produits agricoles ne sont pas des produits comme les autres. Ce ne sont pas des marchandises ordinaires. On pense tous l'exception culturelle. On trouve normal que pour le cinéma, le prix des livres, les émissions de télévision, les émissions de radio, qu'il y ait des émissions en français, qu'il y ait des émissions culturelles, qu'il y ait France Culture, on trouve ça normal.
Plus ou moins. Il faut le défendre aussi.
Il faut le défendre. Mais c'est protégé aussi par l'Organisation mondiale du commerce. Dès 1947, on disait il y a une exception culturelle. Et on le dit aussi par l'UNESCO dans une convention de 2005. Ce qui est vital pour les cultures, pour l'esprit humain, en quoi est-ce qu'on ne devrait pas aussi protéger ce qui est vital pour le corps ?
Bien sûr.
Et donc ce qui est vital pour le corps avant tout, c'est de pouvoir se nourrir. Et on se rend compte qu'avec 820 millions de personnes qui meurent de faim, on en est loin. Donc on a protégé l'esprit et je souhaiterais qu'on protège le corps. Et une autre idée qui court un peu les rues, si je puis dire, c'est que il faut pas s'inquiéter parce que plus on avance dans le temps, plus on vit vieux. Et donc ne critiquons pas notre alimentation d'aujourd'hui qui est faite de beaucoup de chimie et de moins en moins de nature. Ne la critiquons pas parce que grâce à cette alimentation, on vit plus vieux. Là, je crois que c'est une idée reçue. Je crois que si on vit plus vieux, c'est parce que les progrès de la médecine vont plus vite que les maladies qui nous viennent de l'alimentation d'aujourd'hui.
D'accord.
C'est une phrase lourde de conséquences, lourde de sens, que j'assume. Je pense que petit à petit, on découvre que notre alimentation, elle engendre des déséquilibres, diabète, accidents vasculaires, des cancers, des choses de ce genre, que la chimie, c'est pas anodin. Que mettre beaucoup de chimie dans l'alimentation, c'est pas anodin. Simplement, la médecine fait des progrès tels qu'elle arrive à nous maintenir en vie. Alors, simplement, la question, c'est est-ce qu'on pourrait pas dépenser moins un peu en santé, un peu plus en alimentation, et avoir moins de maladies en mangeant mieux ?
Un rééquilibrage,
rééquilibrage du
budget.
De telle sorte que, et c'est aussi très important, dans les pays pauvres, il y a des gens qui meurent de faim. Dans les pays riches, il y en a qui mangent mal. Et peut-être que les deux problèmes ont les mêmes causes.
J'ai coutume, François Collard du Tilleul, de poser à mes invités la question du rationalisme. Pensez-vous qu'il est grand temps, vous y avez un peu répondu dès le départ, d'introduire beaucoup plus de raisons dans les rapports aux questions alimentaires, agricoles, de sécurité et comment ?
Alors, pour moi, c'est très simple à penser comme départ, parce que notre vie, la vôtre, la mienne, celle de tous nos auditeurs, celle de toutes les entreprises, ça consiste pas à ajuster des offres et des demandes, ça consiste à ajuster des ressources et des besoins. J'ai un revenu, j'ai des besoins, et si j'ajuste mal mes revenus et mes besoins, j'ai des problèmes. Je suis obligé de réduire mes besoins, ou alors, si j'ai plus de revenus, j'épargne. Mais ma vie économique, c'est ajuster des ressources et des besoins. Eh bien, il y a des ressources naturelles et il y a des besoins alimentaires. Pourquoi est-ce que ce qui est une loi de notre vie, on n'en fait pas une loi plus générale qui consiste à voir comment on peut ajuster les ressources naturelles avec les besoins alimentaires de toute la population ?
Ce qui est du rationalisme à l'état pur.
C'est presque le bon sens en même temps que la raison. Et pour le faire, il y a une voie qui me paraît être, d'une part, de traiter les produits agricoles comme, non pas comme des marchandises ordinaires, mais comme des marchandises essentielles, au moins aussi bien qu'on le fait pour les produits culturels. Et d'autre part, remettre la personne humaine au cœur de l'objectif de l'alimentation, donc de l'agriculture, donc de la protection de la nature. Et c'est ce que j'appelle la démocratie alimentaire, avec évidemment, comme juriste, tout un tas de conséquences que j'essaie de développer en droit, tant du côté de l'exception agricole que du côté de la démocratie alimentaire.
Eh bien, c'est sur cet appel à la démocratie alimentaire que nous allons clore cette émission. François Collard-Dutilleul, je vous remercie.
Merci à vous.
Je signale deux ouvrages autour de cette question de la démocratie alimentaire. Penser une démocratie alimentaire que l'on peut trouver en ligne sur le site des hyperarchives, la HAL.
Hyperarchives en ligne, H-A-L.
H-A-L. J'indique aussi le dictionnaire juridique de la sécurité alimentaire dans le monde qui est paru chez Larcier en 2013. J'indique également que toutes ces références se retrouveront sur le site de l'Union Rationaliste où j'invite les auditeurs de France Culture à aller s'informer. Je remercie Théo Goumard et Dany Journeau qui ont rendu possible cette émission et je vous dis au mois prochain.